France Culture.
Question d'islam par Ali Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'amour, d'amour mystique, de poésie persane, et tout cela à travers un traité, le premier traité d'amour mystique que le professeur Yann Richard a bien voulu traduire et mettre à la disposition du public français et francophone. Nous lui en savons gré. Yann Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur émérite d'études iraniennes à la Sorbonne Nouvelle, chercheur au Centre d'études et de recherche sur le monde iranien. Vous êtes un fin connaisseur de la poésie persane et vous connaissez toutes ces choses et les arcanes de la mystique soufi, et c'est vraiment avec grand plaisir que je vous accueille, et je suis sûr que nos auditeurs en seront ravis. Alors, vous avez traduit et annoté un ouvrage, vous l'avez rendu par fulgurance, Sawaneh, moi je le prononce à l'arabe, Sawaneh, si c'était la manière persane, et qui est un livre, un traité de mystique amoureuse de Ahmed Ghazali. Alors, d'abord, votre rencontre, vous m'aviez dit au téléphone que ces fulgurances vous ont beaucoup marqué.
Oui, parce que quand j'étais débutant dans mes études sur l'Iran et sur l'islam, j'ai lu l'histoire de la philosophie islamique de Henri Corbin, dont j'ai été un petit peu l'élève. Je l'ai un peu connu à Téhéran et à Paris. Dans cette histoire de la philosophie islamique qui est très originale, où pour la première fois on va au-delà d'Averroès, Corbin traduit une page tirée des Sawaneh de Ahmed Ghazali. Et ça m'avait fasciné. C'est l'apologue sur le papillon et la chandelle. Et puis plus tard, quand j'étais à Téhéran, j'étais ami de Nasrullah Pourjavadi, qui est un savant iranien qui a beaucoup travaillé sur Ahmed Ghazali, qui a publié lui-même une édition améliorée à partir de l'édition de Helmut Ritter de 1942. Et Nasrullah Pourjavadi m'a toujours incité à aller plus loin dans la lecture de Ghazali, enfin de Ahmed Ghazali, attention, ce n'est pas...
Nous allons en parler.
Oui. Et je me félicite d'avoir gardé ça. J'en ai fait le sujet d'un cours pour mes étudiants de licence il y a très longtemps, et je piétinais sur des difficultés immenses. Je dois avouer que je me suis beaucoup servi des travaux de Pourjavadi et aussi d'un orientaliste allemand fascinant, Richard Gramlich, qui a beaucoup travaillé sur les mystiques iraniens d'expression arabe ou persane et qui était dans la grande tradition d'orientalisme allemand de Helmut Ritter et Fritz Mayer. Et donc son édition et sa traduction des Sawaneh avec beaucoup de notes est absolument fascinante. Oui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, je dois dire.
Alors, vous avez, et à juste raison, dit attention, Ghazali, nous connaissons, le grand public connaît Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins. Celui-ci, Ahmed Ghazali, est le frère de l'autre.
C'est le frère, voilà. Les deux s'entendaient bien. D'ailleurs, ils ont eu une éducation pratiquement parallèles, peut-être communes au début. Et ils ont été orphelins de père, en tout cas très tôt, et élevés par un ami de leur père. Mais très vite, ils ont été obligés de s'engager dans les madrassas où ils avaient des bourses, probablement. Et l'un est devenu un théologien, un grand théologien de l'islam, qui a enseigné à la Nizamiya de Bagdad. C'est le plus connu. Donc quand on dit Razoli, personne ne pense au petit frère. Et le petit frère, en réalité, avait aussi une grande aisance dans tous les sujets de la tradition islamique. Il a même remplacé son frère aîné à la Nizamiya pendant quelques mois, quand le frère aîné a eu une crise mystique et est revenu dans sa ville natale du Khorasan iranien. Et donc il l'a remplacé et il l'a accompagné plus tard dans ses dernières heures, puisqu'il était présent lors de la mort de son frère en 1111. Voilà une date facile à retenir.
Oui. Bon. Et même sa date de naissance, on parle toujours du frère, donc il oui. naît en 1058. Oui. Et Ahmed est son cadet de 3 ans, dit-on. Donc oui, il serait né 3-4 ans. Voilà. Il serait né en 1061-1062. Alors vous avez évoqué la Nizamiya. C'est une grande madrasa, on aurait dit même la première université de Bagdad, et elle était fondée par Nizam al-Mulk, le vizir seldjoukide, assassiné...
Qui était iranien, d'ailleurs.
Qui était aussi iranien, oui. Et qui était ami de Al-Razali. Et lui, de nos jours, on aurait dit que Al-Razali, avec le nom, c'est Mohammed Abu Hamid, était titulaire de la chaire de théologie à la Nizamiya, ou Nizamiya, et son frère, quand Abu Hamid n'y était plus, donc Ahmed, va lui succéder là-bas, c'est pour dire qu'il était aussi à l'aise.
Il était reconnu d'avoir un très bon niveau, et à l'aise, pas seulement pour des prédications, mais pour un enseignement de fond à des gens qui voulaient connaître la tradition et comprendre l'islam de manière intellectuelle. Ils ont aussi une correspondance de pensée quand on lit ce que dans le Ihya Ulumuddin Mohammad Razali dit sur l'amour.
Alors on traduit pour les auditeurs, Ihya Ulumuddin, c'est la revivification des sciences de la religion.
C'est une somme théologique en somme. Quand il a un chapitre sur l'amour qui déjà annonce un petit peu ce que nous trouvons dans les savonnets de son frère Ahmad, mais il ne va pas aussi loin que Ahmad. Et je pense que la carrière de Ahmad Razali, le jeune frère, c'est une carrière d'abord beaucoup plus itinérante que le frère aîné. Il va aller dans toutes les villes du plateau iranien, Ispahan, Shiraz, Kerman, etc. Et surtout aussi vers l'ouest, c'est-à-dire Kermanshah, Tabriz et Hamadan, où il aura ce disciple merveilleux qui est Ibn al-Razzaq al-Hamadani. Et puis, il va mourir à Razvin, donc une petite ville qui est à environ 150 kilomètres à l'ouest de Téhéran, où son tombeau est encore visité de nos jours. Donc, il a beaucoup voyagé, beaucoup plus que Mohammad, et il participait probablement à des séances de zikr, à des séances de méditation, et peut-être des auditions musicales. Alors ça, c'est un peu controversé parce que un chercheur américain, Lombard, a fait une thèse remarquable sur Ahmad Razali et lui conteste le fait que Ahmad Razali soit l'auteur d'un traité justifiant la musique. Peu importe, je ne vais pas entrer dans cette polémique, j'accepte la critique de Lombard, mais il a certainement participé à ces séances qui non seulement étaient consacrées à l'audition musicale, mais aussi à la méditation sur la beauté de jeunes visages masculins. Ça a été très critiqué dès cette époque au Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, une sorte de tendance peut-être de dérive sexuelle existait, était justifiée par le fait que par ces beaux visages, on arrivait à la méditation sur le visage de Dieu ou sur la beauté divine. Voilà.
Shahid Bazi. Si je prononce bien, je le dis sous votre contrôle. Bien. Alors, revenons aux fulgurances, et j'aurais une question pour vous, Yann Richard. Vous l'avez traduit en savané. Il se trouve qu'en langue arabe, sawaneh est le pluriel de saneha, ce qui veut dire à la fois une bonne opportunité, quelque chose de bon augure. Lorsqu'un oiseau va de gauche à droite ou de l'ouest à l'est, c'est de bon augure. Quand c'est l'inverse, on ne le fait pas. Et le pluriel de saneha, c'est sawaneh. Je ne sais pas si en persan, on a la même acception ou pas. Mais pourquoi l'avez-vous traduit en fulgurance ?
C'est pas mon choix, je vous le dis tout de suite, c'est celui de mon ami Amiel Moesi, que j'ai accepté, parce que d'abord il a plus d'expérience que moi dans le domaine de l'édition des textes de ce genre. Il voulait que ce soit percutant. En fait, le texte persan n'a pas de titre. Et en persan moderne, saneha, c'est un accident, c'est ce qui arrive. Et moi, je voulais mettre la notion d'accident, les accidents paradoxaux de l'amour. Voilà, c'est quelque chose qui nous choque presque dans la description de l'amour. Et en fait, ce livre a été écrit par Ahmad Razali à la demande d'un de ses amis, c'est ce qu'il dit au tout début. Il dit, Monsieur Zainuddin, cet ami de longue date, alors on ne sait pas qui c'est cet ami, m'a posé la question, mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et il se propose de répondre. Ce qui est passionnant, parce qu'il part d'un cas concret, quelqu'un qui peut-être avait un chagrin d'amour, était dans le désespoir, et il lui dit, voilà, maintenant il faut essayer de comprendre, l'amour vient d'où ? Qu'est-ce que c'est ? Il nous conduit où ? Et au point ultime, qu'est-ce que ça implique ? Et il va très très loin dans la description de l'amour.
Cette description se fait en distique, en tout cas avec beaucoup de poésie, parce que l'art poétique, la poésie est une forme de production, de création, parce que c'est ainsi qu'on rend compte de l'ineffable, de l'inexprimable, de ce qu'on ressent. Et la perception première se fait par le cœur, qui est l'organe de perception par excellence.
Le cœur est l'organe de l'amour. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si vous lisez la dernière encyclique du pape François, il dit exactement la même chose. Voilà, le cœur est l'organe de l'amour. Et pour Razali, il médite sur le fait que l'amour, c'est quelque chose qui nous porte au-delà de nous-mêmes, en dehors de nous, qui nous rend inconscients, ivres, drogués. Il a un passage absolument magnifique sur le fait que un amoureux, par exemple, qui traverse le Tigre chaque jour pour aller voir sa bien-aimée qui est de l'autre côté, à Bagdad, un jour, en arrivant, en voyant sa bien-aimée, il lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce grain de beauté que tu as ici, sur le visage ?» Elle dit « Mais ce grain de beauté, je l'ai de naissance !» Et elle lui dit « Aujourd'hui, ne traverse pas pour rentrer chez toi !» Parce que c'est dangereux. Tu es sorti de ton ivresse puisque tu as vu quelque chose qui est sur mon visage. Et tu as vu quelque chose qui peut-être que tu ne voulais pas voir, que tu ne pouvais pas voir dans l'ivresse de l'amour avant. Et puisque tu es revenu à toi, tu vas mourir de froid en retraversant le Tigre, qui est un fleuve qui vient des montagnes, qui est très froid, et où il y a beaucoup de courants. Et effectivement, il est mort en repartant.
Ce que vous dites m'incite à vous poser une question que j'allais laisser dans le cours de l'émission. C'est cette histoire de Majnoun, le fou de Layla, qui, alors d'emblée, je vous l'ai dit, je vous interroge là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette affaire de dire je voudrais rencontrer Layla et puis il ne veut plus la voir et il se contente, disons, de la poussière de la ruelle qui y mène.
D'ailleurs, ce qui est le plus grave, c'est que la famille de Majnun implore qu'au moins on le laisse voir sa bien-aimée, parce que la famille de Leïla ne veut pas que leur fille épouse un fou. Il est fou d'amour et il a perdu la raison. Alors, ils acceptent quand même de faire sortir Leïla de sa tente pour que Majnun, qui est là, au bout de la ruelle, puisse la contempler. Mais à peine son ombre avait-elle dépassé le seuil que lui est tombé d'inanition. Il a perdu conscience, littéralement. Et donc, c'est un peu comme notre ami qui traversait le Tibre. Il a perdu conscience et il s'est évanoui. Et les autres disent, vous voyez bien, il n'est pas capable de maîtriser ses passions. Donc, il y a d'un côté la raison humaine qui dit, on peut pas laisser se marier deux jeunes qui sont visiblement pas sur notre terre. Ils sont dans un autre monde. Et toutes ces histoires, alors la poussière, c'est effectivement la poussière, cette chose indéfinissable et insaisissable qui est soulevée par Leïla ou par le chien de la tente qui garde la tente de Leïla, c'est-à-dire rien du tout et qui le fait tomber en pamoison. Le plus beau poème sur cette histoire de Leïla et Majnun s'appelle Leïli et Majnun. C'est le poème de Nezami au XIIe siècle, qui est un véritable chef-d'œuvre. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça, mais c'est sur l'amour. Et cette histoire de Leïla et Majnun est au centre aussi de beaucoup de choses.
Les fulgurances ont été écrites globalement vers 1114, soit une dizaine d'années avant la mort d'Ahmed Razali, de l'auteur. Vous pensez qu'il était là, disons, dans la maturité de celui qui s'est intéressé à ces questions de brûlure du cœur et de l'amour, l'amour intra-humain et l'amour mystique pour Dieu?
Je pense qu'il était dans sa totale maturité, effectivement. Il avait compris des choses et il n'exprime pas ouvertement tout ce qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire justement les poèmes qui accompagnent certains chapitres, pas tous, mais certains, selon une présentation qu'on retrouve plus tard dans beaucoup d'auteurs iraniens, d'ailleurs Les Lavoyers de Jami que j'ai publié il y a assez longtemps, il y a une quarantaine d'années, c'est exactement le même style. Il y a un passage de prose qui est un exposé un peu sec, un peu théorique et de spéculation métaphysique, et puis une illustration concrète par un poème d'amour passionné.
J'ai lu dans votre ouvrage qu'il a encore, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parmi sa production, il y a l'histoire des oiseaux, le cantique des oiseaux, la conférence des oiseaux, ou le logos même des oiseaux, et qui a inspiré plus tard l'apothicaire Falidouddin Attar. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est versé par l'écriture et par l'expérience du brasier intérieur.
Tout à fait, tout à fait. Et puis, donc, il a essayé de comprendre d'où vient l'amour. Et en réalité, il nous introduit dans cette grande dramaturgie de l'islam, dans la tradition mystique, où Dieu dit Kanzan Marfian, à la Kanzan Marfian, j'étais un trésor caché, j'ai aspiré à être connu. Et Dieu a créé le monde et l'homme à la tête pour justement que ce trésor soit réellement aimé. Et donc il a commencé par aimer l'homme. C'est une phrase du Coran que notre ami Razali cite à plusieurs reprises. Et cet amour de Dieu qui a été donné à l'homme revient à Dieu, en somme, par les éclats d'amour qui sont mis dans notre cœur à notre naissance et qui viennent de la prééternité. Donc là, il y a toute une mise en scène par cet oiseau mythique qui vient de la prééternité et qui est le symbole même de l'amour, qui vient de on ne sait où, et qui nous apporte quelque chose qui va nous remplir de passion et de sentiments et d'amour pour beaucoup plus que l'éternité qui va suivre. Donc nous sommes comblés d'amour, à condition évidemment de ne pas étouffer ce qui nous a été donné et de le laisser aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aussi quelque chose qui est finalement un peu choquant pour nous, c'est que celui qui est amoureux d'une personne qui est en position dominante et qui a priori ne répond pas à cet amour, qui attend que l'être amoureux se donne entièrement et disparaisse dans l'objet de l'amour, dans l'être aimé. Et avec, bon, il y a l'histoire du papillon qu'on pourrait lire ici éventuellement, où je pense toujours à ce petit apologue qu'on trouve dans le Masnavi de Jalaluddin Rumi plus d'un siècle après, où l'être amoureux frappe à la porte de son aimé et l'aimé répond « Mais qui est là ?» Il dit « C'est moi. » Il dit « Si c'est toi, va-t'en. Il n'y a pas la place pour deux moi dans ma maison. »
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Yann Richard, professeur émérite d'études iraniennes à la Sorbonne Nouvelle et chercheur au Centre d'études et de recherche sur le monde iranien et surtout fin connaisseur de la poésie persane et de l'amour mystique. Nous parlons de l'ouvrage Fulgurance d'Ahmed Razali, mort en 1123-1124, oui, bien oui. Sûr, je ne voudrais pas commettre d'impair. Il y avait deux choses. La première, le fameux verset que cite Ahmed Razali, le frère de l'autre, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, c'est le fameux verset 54 de la sourate 5 qui dit en substance « Oh, vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renia sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qui l'aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon, mais le premier amour, c'est l'amour de Dieu pour ce peuple, et les membres du peuple vont aimer Dieu. Et donc, cela rejoint cette tradition sainte, comme on le dit. Dieu était tel un trésor caché, il voulait être connu, a créé le monde et dans ce monde il y a un autre qui est l'être humain et ce qui joue le rôle du regard dans ce miroir dans lequel il va se mirer, c'est effectivement l'amour. Et c'est d'abord l'amour divin qui est premier. Maintenant, à propos de l'apologue du papillon, il est déjà dans Hallaj, mais je vous prie, c'est quoi? C'est tellement le papillon aime la lumière et la flamme qu'il s'y brûle.
Le papillon voit la flamme et tombe amoureux de la flamme. Il mobilise toutes ses forces pour aller vers la flamme. C'est-à-dire, il se donne déjà, dès le départ, entièrement, dans la contemplation de cette flamme qui évoque, pour Corbin traduit, il y a le terme « eshraq », c'est l'illumination, c'est quelque chose qui est mystique déjà, hein, dès le départ. Et il va vers la flamme, il tourne autour de la flamme, comme les pèlerins autour de la Kaaba, et finalement, Il veut manger la flamme comme tout amoureux veut manger l'être aimé, mais en réalité, il est mangé par la flamme. C'est pas lui qui pénètre dans la flamme, c'est la flamme qui pénètre en lui. Et ça, c'est très très beau d'avoir retourné complètement la situation. L'être aimé n'est pas celui qui dévore, il est celui qui est dévoré, littéralement. Et il retombe à l'état de cendre, c'est-à-dire de rien du tout. Il a accepté d'être annihilé pour aller jusqu'au bout de son amour. Et quand on ne va pas jusqu'au bout d'une relation amoureuse, ça veut dire qu'on se garde soi-même. C'est un peu comme celui qui frappe à la porte de la bien-aimée. Et il va ensuite, pendant 2 ans, d'après le récit de Rumi, et il retourne à la porte et il dit « Halre bardar zad besattar so adapto benadjahad bi adap lafzizelap ». Il tremble tellement il n'est plus lui-même. Et elle lui demande « Qui es-tu ?» Il dit « C'est toi. C'est toi qui es à la porte. » Et donc elle dit « Puisque c'est moi, viens. Il n'y a pas la place pour 2 mois ici. » Donc nous sommes ici dans une relation à sens unique et une très belle relation. Et on se dit si Dieu est le modèle de l'amour, que l'amour c'est ça, de disparaître dans l'être aimé, ça veut dire que Dieu va disparaître aussi. C'est une véritable kénose, mais il va pas jusqu'au bout. Il va pas jusqu'au bout de cette. C'est pas la théologie paulinienne. Hein, c'est
kénotique, comme on dit, oui, celle de la kénose.
Voilà.
Ce n'est pas encore une fois le sujet. Chez Al-Hallaj, le quart d'heure des consciences, quand il dit celui que j'aime, c'est moi, et moi est celui que j'aime. Quand tu me vois, tu le vois, et quand tu me vois, tu nous vois. Donc il y a une sorte de
fusion. La fusion est faite. Mais il reproche quand même à Al-Hallaj d'avoir dit « Analha », c'est-à-dire « il y a encore Anna », c'est-à-dire « il y a encore moi ». Et le véritable amour, moi, n'existe plus. Ou bien Bastami, qui a dit « Sobhani », pourquoi
gloire à moi?
Pourquoi gloire à moi? Toi, tu n'existes plus. Et tu dois disparaître. Donc, il va jusqu'au bout de cette démarche qui effectivement est celle de Al-Hallaj. Et Al-Hallaj avait autre chose, c'est que il a utilisé un vocabulaire choquant hein, au Xe siècle. Donc, c'est tout au début de l'islam finalement. Il a utilisé le vocabulaire de l'amour charnel pour parler de la relation de l'homme à Dieu. Alors, dans une tradition judéo-chrétienne, on a des exemples qui viennent du Cantique des Cantiques, etc. Il y a de multiples exemples de mystiques qui ont pris l'amour humain comme symbole ou comme manière de comprendre les différents degrés qui nous mènent jusqu'à l'amour de Dieu. Mais là, chez Al-Hallaj, il y a eu cette fusion, d'abord, qui est presque comme une incarnation, hein, c'est le concept d'incarnation qui a choqué ses contemporains, et puis le fait qu'on utilise le mot « esh », qui est l'équivalent de « eros », qui n'existe pas dans le Coran. Et après Al-Hallaj, tous les mystiques ont été jusqu'à la frange de cette conception et aucun n'avait osé, comme Ahmad Razali, aller jusqu'à reprendre cette thématique de l'amour humain pour parler de la relation de l'homme à Dieu.
Alors, notre ami Ahmad Razali va discourir, si je puis dire, sur les notions de Aishq, de Mhob, Mahabba. Ce qui est dans le Coran, c'est l'équivalent, en gros, de l'amour de philiae et de d'agapé, mais il n'y a pas l'équivalent d'éros.
Non.
Mais encore une fois, il y a un autre verset, c'est le verset 30 de la sourate 3, la sourate de la famille d'Imran, qui dit, là aussi en substance, « Dis-leur, et l'injonction est faite au prophète, si vous aimez Dieu, suivez-moi, il vous aimera, il vous pardonnera vos fautes. » Donc là aussi, il y a une sorte d'amour réciproque, mais l'amour de Dieu pour les hommes est toujours antérieur. Et dans le Coran, on peut trouver encore un autre mot, c'est « al-wud al-ma'udda », c'est celui qui est enclin à aimer. Et là, Ahmed Razali en parle dans ses fulgurances.
Oui, il en parle, mais disons, ce qui domine, c'est quand même la thématique de Eschre, avec les trois volets, disons, l'amour lui-même qui nous est apporté depuis la pré-éternité, qui nous est apporté à notre naissance.
Et qui reste jusqu'à la post-éternité.
Et qui reste, voilà, c'est un dépôt divin qui est en nous. Et puis, ces deux pôles opposés, l'être aimé, qui n'est pas tout à fait indifférent en réalité, on va le voir, et l'être amoureux qui est malheureux, qui est très malheureux, qui se dépouille de tout et qui a beaucoup de mal à se dépouiller de tout parce qu'il faut qu'il se dépouille de lui-même, de soi-même, de son soi. Et en réalité, ce qui est très inattendu, c'est que à un moment, l'être aimé, il attend ce regard amoureux. Il a besoin de ce regard amoureux. Il ne peut pas être complet s'il n'y a pas ce regard amoureux. Et c'est l'histoire.
Il y a un apologue.
Voilà,
avec...
très bel apologue du roi qui passe dans la ville et il passe devant le bain public. Or, quel est l'homme le plus sale, le plus méprisable de la ville où passe le roi? C'est le fournier du bain public qui met le charbon ou le bois dans le four, qui nettoie tout, etc., qui fait partir les eaux sales du bain, etc. Et le roi, il s'aperçoit qu'il y a un regard amoureux sur lui. Et d'abord, il veut châtier ce regard, il veut s'en défaire.
Qui ose porter son regard sur lui.
Quel impudent. Bon, le vizir lui dit, mais écoute, tu es juste, toi, et c'est pas volontaire, c'est malgré lui qu'il a ça. Et puis, le roi, finalement, un jour, il passe, et le fournier n'est pas là. Donc, il n'a pas ce regard amoureux sur lui et il lui manque quelque chose. Donc, l'être aimé...
Et le vizir s'en était rendu compte.
Le vizir s'en était rendu compte parce qu'il est très malin. Et il devance la pensée de son maître. Et en réalité, ce roi, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu passe et si on ne l'aime pas, il lui manque quelque chose. C'est quelque chose que Ahmad Razali ne dit pas. Je pense qu'un musulman ne peut pas dire ça.
Ou du moins la théologie classique, oui, ou la théologie standard dira que Dieu est au-dessus de toute chose et qu'il n'a pas besoin du regard ou de l'amour des hommes. Mais là, dans cet apologue, c'est que l'être aimé, dès lors que le regard ou l'inclination de l'amoureux semble manquer, il lui manque quelque chose.
Il lui manque quelque chose, tout à fait.
Parce que ce qui unit les deux, c'est cette quintessence de l'amour.
De l'amour qui est entre les deux, qui est entre les deux, voilà.
En réalité, c'est relationnel.
C'est tout à fait relationnel, exactement. Et il y a ce besoin, alors je pense que dans la philosophie islamique, moi j'avais étudié un peu ça, bon, toutes les racines plotiniennes, etc., cette recherche de l'un, hein, je pense que dans la croyance musulmane, le tawhid, la croyance que Dieu est un, va très loin parce que ça implique beaucoup de choses dans la métaphysique, dans beaucoup de choses. Et là, l'amour, c'est ce qui nous permet de retrouver l'unité ou de rechercher l'unité. Nous sommes deux, mais nous sommes faits pour redevenir un. Nous étions un, et il faut qu'il y en ait un qui disparaisse, c'est l'être amoureux. Alors, la question, c'est est-ce que entre l'être aimé et l'être amoureux, il peut y avoir une réciprocité? Est-ce que le sentiment peut être partagé? Dans notre tradition romantique, disons, dans notre tradition chrétienne peut-être, il y a deux personnes qui réussissent à mettre en harmonie leur amour, enfin il y a qui veulent, alors souvent il y a des circonstances qui les en empêchent, mais alors que là il faut qu'il n'y ait qu'une personne, donc c'est une contradiction, ça implique une grande tension, et Ahmad Razali cherche des solutions pour dire que effectivement tant que l'être amoureux ne s'est pas débarrassé de tout ce qui le gêne, même éventuellement les lourdeurs passionnelles, charnelles, etc., l'égoïsme, la volonté de d'agir comme un prédateur, que sais-je, tant qu'il ne s'est pas débarrassé de ça, il ne peut pas y avoir de réalisation de l'amour.
Vous avez évoqué les tendances ou les racines plotiniennes de la philosophie dite islamique et même de la théologie rationnelle des musulmans. Il y a cette idée de l'un avec son émanation, le un nécessaire par soi, l'être nécessaire. Oui. Mais cet être nécessaire n'est connu ou perçu que par un autre. Donc il est nécessaire par autrui aussi.
Oui,
donc,
oui. C'est le dilemme. Voilà,
Oui. Cher Yann Richard, poursuivons peut-être toujours par tous comme ça, impressionnistes et par apologue. Il y en a encore un autre, c'est le roi Mahmoud de Razna, qui, dans sa cour, il va y avoir quelqu'un qui agit avec impudence aussi, qui voudrait vendre du sel. Et c'est totalement irrévérencieux dans la cour du grand roi Mahmoud de quelqu'un qui vient vendre du sel. Et donc, il voudrait le châtier.
Il y a deux choses tout à fait paradoxales dans l'histoire de Mahmoud. Alors, Mahmoud est un roi historique, mais cette situation amoureuse de Mahmoud est évidemment...
allégorique.
Oui, c'est un trope, c'est allégorique. Et ça a été utilisé très souvent dans la poésie. Deux choses choquantes. C'est d'abord son amour pour un esclave, pour Ayaz, qui est très beau, et qui est en fait, qui met en valeur cette relation amoureuse où celui qui est amoureux est comme l'esclave de l'être aimé. Donc le roi, devenant amoureux de son esclave, doit renverser la position. Et ça, il y a aussi un apologue là-dessus dans les Savonnets. Mais vous faites allusion à ce passage très curieux où le marchand de sel, qui avec son plateau de sel, va dans la cour et il dérange Mahmoud. Mahmoud lui dit, mais enfin, il le fait venir après en privé, il lui dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais? C'est inouï, on n'a jamais vu ça. Et l'autre dit, mais... Le sel, c'est un prétexte. Et en réalité, le sel, c'est symbolique, c'est dans l'amour. C'est ce qui donne le goût à tout ce que nous faisons.
Oui, bon. Il lui dit, moi, je suis roi avec mes 700 éléphants, j'ai tout ce qu'il faut, je suis maître d'un vaste territoire, et toi, tu oses venir interrompre notre...
Et tu n'as même pas ce qu'il faut pour vivre jusqu'à demain.
Oui, et tu viendras vendre le jour. Du sel.
Voilà, et tu nous vends du sel.
Et il lui dit, mais je suis beaucoup plus riche parce que moi j'ai ce sel qui te manque.
Qui te manque. Et tu ne peux pas savoir ce qu'est l'amour parce que justement tu es gêné par toutes ces soucis du monde, on dirait aujourd'hui, dans un langage un peu moderne. Tu es gêné par les soucis du monde. Débarrasse-toi de ça. Je pense à l'histoire du jeune homme riche qu'il y a dans l'Évangile, où Jésus lui dit, mais vends tout ce que tu as. Vas-y, donne-toi entièrement. Et là, le marchand de sel, il dit à Mahmoud, tout ça, ça t'empêche d'aimer Ayaz. Ça t'empêche de l'aimer parce que tu es entravé par ses soucis. Moi, je n'ai pas de soucis. Je n'ai que Ayaz.
Avoir 700 éléphants et être maître d'un vaste territoire et un grand royaume, tout cela fait écran par rapport à la vision de l'être aimé.
Tout à fait.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons d'amour mystique, de poésie persane. En tout cas, cet amour mystique est révélé ou traduit ou médiatisé par la poésie, et particulièrement la poésie persane. Et nous devons cette médiation à Yann Richard, qui est professeur émérite d'études iraniennes à la Sorbonne Nouvelle, chercheur au Centre d'études et de recherche sur le monde iranien. Et nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir mis à notre disposition, et en tout cas au public francophone, ces fulgurances, ces savanées d'Ahmed Razali. Et je le dis pour nos amis auditeurs qui prennent l'émission en route, nous parlons du frère de Mohammed al-Razali, et qui est l'auteur, entre autres, pas uniquement, mais en tout cas, de ces fulgurances. Vous souhaitiez peut-être déclamer tel ou tel vers, quelques-uns en tout cas, de ces fulgurances, Yann Richard.
Peut-être est-il utile pour nos auditeurs que on lit certains passages. Je ne sais pas si est-ce qu'on prend le passage du papillon et de la chandelle, par exemple.
Ah oui.
Je pense que il est assez connu. On le retrouve même chez des auteurs occidentaux qui ont été fascinés par ça. Ça a été transmis largement dans la tradition, et l'origine c'est quand même ici dans notre livre des Savonnets. Quand le papillon est devenu amoureux de la flamme, sa nourriture tant qu'il est à distance est cette illumination, le terme échroch ici. Que ce signe avant-coureur de l'illumination le convie et l'attire, et lui, de son coup d'aile à lui, c'est-à-dire c'est lui qui met ses forces vers la flamme. Il accomplit le vol de l'amour dans l'air de la quête de cette lumière. Mais il n'a pas besoin de coup d'aile que pour arriver jusqu'à la flamme. C'est-à-dire que son effort, c'est vraiment pour s'approcher. Arrivé à elle, il n'a plus à avancer. L'avancée, c'est celle du feu en lui. Ça, c'est le retournement complet de la relation. Et lui n'a plus de nourriture. C'est pas lui qui se nourrit, c'est le feu qui se nourrit. C'est la flamme qui se nourrit. Et c'est un grand mystère. En un soupir, en un nafas. Il y a aussi une méditation sur le souffle. Parce que la relation amoureuse se passe dans un instant. C'est quelque chose qui ne dure pas, ça ne peut pas durer. En un soupir, il devient son propre être aimé. Voilà donc la fusion, l'amour fusionnel, ici se réalise. Sa perfection, c'est cela. Et c'est pour ce soupir qu'il a accompli tout cet envol et toutes ces circonvolutions.
Les circumambulations.
Circumambulations autour de la pierre et de la Kaaba. Jusqu'à quand attendre pour que cela arrive ? Et nous avons exposé auparavant que la réalité de l'union, c'est cela. Un instant, yek sa'at. Alors sa'at, c'est aujourd'hui, ça veut dire une heure, 60 minutes, mais sa'at, en fait, c'est l'instant. En un instant, l'attribut de la flamme le convie à un festin et soudain, il le fait sortir à l'état de cendre. L'existence et ses attributs sont tout son équipement pour la route. Il a tout donné, existence et attributs. Tu anéantis ta vie dans la construction de l'intériorité. Où est donc l'anéantissement dans l'unicité ? Il a trouvé maintenant l'unicité qui est sa raison d'être. Voilà, je pense que cette conception de l'amour a eu un écho encore plus grand dans les auteurs qui ont succédé. On a parlé tout à l'heure de Attar, la quête mystique des oiseaux, par exemple, qui arrive jusqu'à la montagne sacrée, et ils découvrent là que l'être qu'ils recherchaient, c'est eux-mêmes, en fait. Et puis, dans le Masnavi de Jalaluddin Rumi, qui est une merveilleuse encyclopédie d'histoire mystique, en fait. Tout est orienté vers l'amour et vers le fait que nous sommes coupés de notre origine, qui est l'amour, et nous cherchons à retourner à notre origine.
Dans le traité ou l'épître ou la lettre de Koshairi, un autre mystique, il y a cette idée, et qu'on retrouve chez Ahmed Ghazali dans ses Fulgurances, dans ses Savanées, que lorsque l'on va au-delà des limites de la simple affection, c'est cela le véritable amour, mais quelles sont les limites de l'être aimé? Donc il faut les dépasser pour se retrouver en soi. Et c'est pour ça que la relation adorateur, serviteur et Dieu, Seigneur, finalement, dans l'anéantissement ou la fusion ou la coalescence ou le fait de se fondre en Dieu, on ne sait plus finalement qui est l'amoureux, qui est l'aimé.
Tout à fait. Voilà. Nous redevenons divins grâce à ce détachement de tout ce qui nous empêche de le redevenir.
Alors, ce n'est pas le divin qui s'humanise, c'est l'humain qui se divinise.
Divin, voilà.
Il y a encore un autre aspect, j'ai cru le percevoir et le lire dans ses Fulgurances, c'est le fait d'être amoureux de la beauté.
On commence par contempler l'être aimé. Il y a le clin d'œil de la beauté qui attire l'amoureux vers cet être aimé qui va mobiliser ensuite toute son énergie. Donc effectivement, la beauté, et Dieu est beau, Dieu est foncièrement beau, et c'est aussi pour ça qu'il doit être contemplé. Si on ne contemple pas Dieu, Dieu n'a plus de raison d'être finalement. Il faut que Dieu soit contemplé.
Il y a deux choses. Il y a d'abord cet aphorisme connu « Dieu est beau, il aime la beauté ». Et il y a le verset coranique. Il ne s'agit pas de les extraire hors contexte, ces versets, mais celui de la sourate, puisqu'ils sont deux, la sourate 55, celle du miséricordieux, et qui disent là aussi en substance « Tout ce qui y vit, le Y est l'adverbe de lieu concernant la terre, tout ce qui y vit est périssable et ne demeure que la face de ton Seigneur, face de majesté et de munificence. Et donc cette majesté et la munificence, dans un premier temps, sont dans les splendeurs de la création, mais le véritable amoureux finira par l'apercevoir. Est-ce dans une vision béatifique, dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable, ou est-ce dès ici-bas, tout le débat est là?
Je pense que Ahmed Ghazali nous dit dès ici-bas, puisque chaque fois que nous sommes amoureux, nous cherchons un éclat de cette face de Dieu, cette beauté que nous, vers laquelle nous sommes appelés pour l'adorer.
Quelle a été la réception, finalement, de ces Fulgurances, déjà en 100 ans et après de nos jours, puisque nous nous approchons du terme de l'émission?
Écoutez, en 100 ans, déjà, on peut dire qu'il n'y a pas eu le scandale qu'il y avait eu deux siècles avant pour Hallaj. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse utiliser le vocabulaire amoureux pour parler de notre relation à Dieu, finalement, est plus intégrée. Nous sommes dans une époque où le soufisme refait surface. Peut-être après la disparition de la dynastie Bouyide qui avait gouverné le monde musulman pendant plus d'un siècle, les Saljoukides ont permis à un islam plus normé, disons, de reprendre la tête de la communauté. Et dans cet islam, il faut qu'il y ait des échappements de bouffées mystiques. Et je crois que le soufisme a apporté quelque chose qui permettait aux gens d'aller beaucoup plus loin que la simple application de la loi, la nomocratie de la théologie musulmane. Et ce sentiment mystique a été sans doute beaucoup mieux toléré à partir de gens comme lui. Mais quand on voit, par exemple, on parlait de Attal, mais on pourrait parler de Ansari, qui était à Herat un peu avant. Et on voit que Ansari était en butte à l'autorité de Herat, et il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire. Il tournait autour du pot. Il avait aussi des idées. C'était quelqu'un qui était, pour un islam mystique, très personnel, concentré sur l'amour. Mais il y a des choses qu'il ne m'a pas osé dire, alors que Ahmad Razali a osé les dire. Et quand on voit dans la tradition iranienne, notamment je pense à Rumi, on peut penser à Hafez, on peut penser à Jami aussi, tous ces grands poètes, ces grands penseurs, je pense qu'ils héritent de cette conception merveilleuse de l'amour que nous trouvons chez Ahmad Razali.
Peut-être, mais je le dis sous votre contrôle et je soumets ça à votre sagacité, Yann Richard, c'est que Abdullah Ansari était encore dans un contexte où, notamment chez les théologiens et peut-être même et qui agissaient en philosophes, et la philosophie à ce moment-là était aussi imprégnée par la pensée d'Empédocle ou d'Héraclite, avec cette idée que l'amour est une émanation du Très-Haut et que oser parler d'une réciprocité, voire d'une fusion d'un amour qui unisse à la fois l'adorateur, l'amoureux et l'être aimé, ne pouvait pas passer, alors que quelque temps après, avec Ahmad Razali, c'était possible et il n'y avait pas ce scandale que vous mettez en avant.
Tout à fait. Je pense que l'œuvre de son frère aîné a aussi préparé un peu à ça. Le fait que ce frère aîné a abandonné une carrière de théologien et d'enseignant pour aller vers la mystique, finalement. Il a eu une crise mystique. Et donc, il y a eu un antécédent qui a certainement fait réfléchir beaucoup de gens, pas seulement à Bagdad, et cet antécédent a permis à Ahmad Razali d'avoir un disciple comme Ayn al-Rozat, et puis d'écrire les Savonnets.
Bien. Et vous pourriez dire, c'est vraiment la dernière chose, puisque là nous sommes arrivés à la fin de l'émission, que ce traité d'amour est du même ordre que ce que Ibn Arabi plus tard, avec son traité, l'interprète des désirs ardents, sont-ils les deux ouvrages du même ordre ?
Alors, je connais très très mal Ibn Arabi, je ne peux pas en parler, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de sophistication, d'élaboration théorique et de spéculation mystique chez Ibn Arabi qu'il n'y a ici. Ici, nous avons vraiment la découverte de l'amour. Et peut-être que sans Ahmad Razali, Ibn Arabi ou Ruz Behan Barli n'auraient pas pu aller aussi loin dans la glorification de l'amour.
Merci infiniment. Merci beaucoup, cher Yann Richard. C'était l'émission Questions d'Islam que vous retrouverez ainsi que toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Nadège Antonini et la réalisation par l'ami François Connac.